Qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
Ce n'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale.
La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pose et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, la conversation mondiale entre deux intellectuels, deux chercheurs ou deux artistes autour de la crise que nous sommes en train de traverser. À l'ordre du jour ce soir, à quel point la Covid nous a-t-elle désorientés? Depuis le mois de mars, nous nous sommes tous et toutes posé la question de savoir ce qui nous arrivait brusquement, nos projets à un mois, puis nos projets à six mois ont disparu les uns après les autres. Celles et ceux qui devaient partir en vacances au loin ont dû revoir leur plan de vol. Et quand les voyages étaient plus proches dans l'espace, ils oscillaient entre 1 et 100 km avant qu'on nous autorise ensuite à élargir le cercle, puis plus récemment qu'on le restreigne à nouveau. Bref, le temps comme l'espace, les coordonnées de nos vies sont devenues instables sur nos horloges comme sur nos GPS. Comment s'orienter dans ce monde pour lequel la modernité technique avait gommé les blancs de la carte et donné la possibilité pour chacun de nous d'avoir une montre individuelle nous aidant à compter les heures? Nous sommes désorientés. Nous en parlons ce soir avec l'historien François Hartog. Bonsoir François Hartog.
Bonsoir.
Et avec le philosophe Roberto Cassati. Bonsoir Roberto Cassati.
Bonsoir.
Qui nous a d'ailleurs confié un texte sur ce thème publié sur le site de France Culture à la page de la Conversation mondiale. Un texte sur la désorientation. Merci donc Roberto Cassati d'avoir accepté d'ouvrir cette discussion sur la désorientation à la demande de Rémi Baye, de notre équipe, du temps du débat, pour discuter de cette désorientation dans le temps et dans l'espace. Alors le temps, c'est un peu la spécialité de François Hartog, on va en parler dans un instant. Il vient de publier Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, dans la bibliothèque des histoires chez Gallimard. Mais c'est aussi votre question, même si vous intéressez beaucoup à la question de la désorientation dans l'espace, en tant que philosophe de la perception et directeur de l'Institut Jean Nicot, puisque sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales, vous aviez publié au mois d'avril, je crois, un texte qui disait, eh bien voilà, nous sommes aussi désorientés par le temps. Le temps nous est compté, la démolition de nos horizons d'avenir, disiez-vous. Tout cela, enfin, toutes ces questions-là étaient dans votre propre travail, parce que en tant qu'Italien, vous voyiez ce qui se passait en Italie d'un côté et comment, 8 jours plus tard, cela arrivait chez nous, mais qu'entre-temps, ça n'avait alerté aucun d'entre nous sur ce qui allait nous arriver, Roberto Cassati.
Oui, en effet, ça c'était au tout début de la crise. Moi, j'étais en contact avec mon frère qui est médecin dans un hôpital qui était tourné dans un hôpital full Covid en Italie, et bon, il avait disparu pendant une semaine, puis il avait réapparu en disant, écoute, là, le tsunami va arriver, il faut se préparer, on a tout changé, l'hôpital, et moi, j'étais complètement sidéré par ça, et puis on voyait des courbes qui se produisaient en Italie, et on voyait la même courbe, en fait, en France, à une petite semaine de distance, donc c'était des courbes exponentielles. Ça nous a pris un certain temps de comprendre que c'était des courbes exponentielles, on sait pas quoi faire. Plusieurs personnes sont intervenues. Finalement, le confinement s'est mis en place très rapidement en France, mais pas assez rapidement. Donc, c'était très intéressant de voir comment le fait de voir quelque chose passer devant nous à une semaine de distance ne pouvait pas préparer à agir au moment approprié. Et je dois dire, moi, je suis à la fin du confinement, la petite anecdote, hein, on a rangé les affaires dans la maison parce que avec les enfants et tout ça, c'était très compliqué, tout était dans les désordres. J'ai trouvé une affichette qui n'avait pas de date, dans laquelle, vous savez, les affichettes, les plombiers vous mettent dans les boîtes à lettres avec des adresses utiles, des téléphones utiles dans les leurs. Et sur cette affichette, au verso, il y avait une des annonces du gouvernement sur la crise. Donc c'était une affichette qui parlait, bon, si vous rentrez de Chine ou que vous arrivez de Lombardie, il faut faire ceci, cela, il faut s'isoler, etc. Et il n'y avait pas de date, mais c'était très intéressant de voir cette affichette parce que c'était un repère temporel, en fait. Elle nous disait, voici où nous en étions juste avant le confinement. Et donc là, c'est toute une série de phénomènes. Enfin, on est surpris par ce qui nous arrive. On a difficulté à le situer dans le temps, difficulté surtout à nous situer dans le temps des phénomènes complexes comme celui-là. Mmh. Et ce n'est pas simplement au début de la crise. C'est pas simplement la France qui regarde l'Italie à une semaine de distance. C'est aussi la France qui regarde la France à quelques mois de distance.
Et oui, bien sûr. Deuxième confinement pour parler du premier d'une certaine façon.
Oui, on était surpris. Ce qui est très intéressant, on était surpris par la vitesse de la pandémie quand elle a repris, et comme si on n'avait pas fait l'apprentissage très douloureux en fait qu'on avait fait.
Ouais. François Hartog, quand vous avez réfléchi depuis longtemps à l'écriture de votre livre qui s'appelle Chronos, l'Occident en prise avec le temps, qui est une très large réflexion sur le temps antique, le temps médiéval, le temps moderne et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes historien qui prolonge tout le travail que vous avez pu faire sur ce que vous avez appelé les régimes d'historicité il y a une quinzaine d'années maintenant, un peu plus d'une quinzaine d'années. Vous êtes senti obligé de rajouter un post-scriptum à la toute fin, puisque vous étiez en train d'écrire ce livre, de le confier à votre éditeur Gallimard. Et vous avez dit, il se passe quand même quelque chose. Et en tant qu'historien, je ne peux pas passer à côté d'une réflexion, même à chaud, de ce qui est en train de se passer.
Oui, en effet. Donc le livre était achevé.
Oui.
Il aurait dû paraître au mois de mai.
Oui.
Bon. Et naturellement, il n'a pas paru. Et l'éditeur m'a autorisé à ajouter un bref post-scriptum. Bon. Et alors, c'était d'autant plus important qu'en effet, il se passait quelque chose et qu'on ne savait pas encore exactement ce qui se passait. Tout ce texte a été écrit, ce post-scriptum a été écrit au mois d'avril. Mais d'autant plus important, alors, pour moi, que je voulais essayer d'envisager cette question du Covid par rapport au temps, à mes interrogations sur le temps, et m'assurer, ou essayer de m'assurer du moins, que ce qui était en train d'advenir ne flanquait pas par terre tout ce que j'avais raconté précédemment.
Oui. Bon. Une profonde réflexion sur les régimes qui ont gouverné le temps dans l'Antiquité, à l'époque moderne et maintenant.
Voilà. Et bon, alors, heureusement, j'ai eu l'impression que non. Bon, mais on dirait que je suis un peu partial, probablement, dans ma manière d'aborder les choses. Mais enfin, il me semble qu'on pouvait retrouver, qu'on peut retrouver dans cette crise du Covid, alors le Covid lui-même et les effets du Covid dans nos sociétés, ces concepts avec lesquels j'ai essayé de réfléchir sur la construction du temps occidental, c'est-à-dire le concept de chronos, bien sûr. Bon, le temps qui passe, le temps de la vie, le temps des astres. Bon, chronos. Deuxième concept, celui de kairos. C'est-à-dire, alors, concept.
Et la surprise.
Le moment opportun, le moment décisif, la surprise. Et puis, dans la perspective chrétienne, le kairos, c'est l'incarnation. Mm-hmm. Le moment de l'incarnation qui introduit un temps nouveau. Bon. Et puis, dernier concept, chrysis. Chrysis, c'est le jugement. Et toujours dans la perspective chrétienne, c'est le jugement dernier. Mm-hmm. C'est à la fois la crise, au sens médical du terme. Donc, le Covid, c'est une chrysis. Crise médicale, crise sanitaire, et puis, est-ce que c'est aussi un jugement? Bon, et là, nous pouvons trouver tous les apocalypticiens qui sont quand même légion par les temps qui courent, qui
nous
plus ou moins remettent en mouvement ces concepts-là. Alors, c'est pas exactement de la même manière, mais il y a ceux qui considèrent que le Covid est une occasion, un kairos à saisir pour faire autrement. Bon, c'est ce qu'on a beaucoup vu dans les mois du confinement. Et puis, ceux qui disent, c'est pas un kairos, c'est carrément
la
une forme de jugement.
Oui.
Dernier.
Oui.
Bon. Et alors,
du rapport à la nature, de l'idée qu'on a.
Et dans ce post-scriptum encore, j'ai introduit un quatrième concept grec également, puisque bon, voilà,
c'est votre spécialité.
Enfin, je suis parti de là, en tout cas, qui est celui de stasis. Stasis, en grec, c'est la guerre civile, c'est le conflit. Bon, et la question que je ne traite pas évidemment,
c'est de savoir
au mois d'avril, est-ce que la l'hésitation entre Kairos avec un K majuscule ou Kairos avec un K minuscule, Crisis avec un K minuscule ou Crisis avec un K majuscule, va se trouver réglée par une stasis qui peut être éventuellement une forme violente de conflit social.
Oui, parce que on est désorienté dans le temps, Roberto Cassati, mais votre travail, c'est un travail de philosophie de la perception. On est aussi profondément désorienté dans l'espace. Et le texte que vous confiez au site de France Culture à la page de la Conversation mondiale, c'est quelque chose qui travaille justement sur cette désorientation dans l'espace qui est votre spécialité. Vous pouvez nous expliquer pourquoi on est désorienté dans cet espace ?
Bon, là, la désorientation spatiale est un sujet qui est très important depuis beaucoup de temps, hein, depuis que les gens naviguent ou se déplacent dans l'espace et qui essaient de résoudre les problèmes de navigation et de déplacement. Aujourd'hui, il est traité par beaucoup de disciplines différentes, dans l'architecture, qui essaie d'aménager des bâtiments dans lesquels on peut se retrouver facilement, la cartographie, les opérations de secours et de recherche de sauvetage, les recherches sur le vieillissement, par exemple, parce que c'est un des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, par exemple, la perte de l'orientation spatiale, l'éthologie, l'histoire, enfin, il y a plein de disciplines. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis très peu de temps, on a des recherches sur l'animal, essentiellement, qui nous permettent de comprendre quels sont les mécanismes fins de l'orientation spatiale. Il y a eu deux prix Nobel récemment, d'ailleurs, sur les cellules qui, dans la région autour de l'hippocampe, dans l'hippocampe, permet de régler la question de la cartographie mentale. Mais ce qui semblait manquer pour faire les traits d'union entre ces différentes disciplines, parce que finalement l'historien n'est pas forcément intéressé directement par les questions de fonctionnement du cerveau, c'était une caractérisation de la désorientation. C'est qu'on a donné dans notre groupe de recherche comme un sentiment métacognitif, c'est-à-dire la désorientation, c'est un sentiment qu'on éprouve quand notre système de navigation spatiale ne marche pas. Et ce n'est pas simplement s'égarer, ce n'est pas simplement que nous sommes égarés, mais ce que nous avons à sentir que des choses n'ont pas marché bien, donc on se retrouve avec ces sentiments. Un sentiment métacognitif, ça signifie... Enfin, c'est quand il y a une famille de sentiments métacognitifs, par exemple, quand vous êtes en train de trouver la solution d'un problème algébrique et voilà, vous sentez que ça va arriver, paf, là, c'est un sentir, c'est pas du tout articulé, il n'y a pas un contenu précis, mais vous sentez que ça va arriver, ou quand vous avez un mot au bout de lèvres et puis bon, ça sort pas, mais vous savez que le mot est là et qu'il va arriver. Et donc, il y a ces sentiments aussi pour la désorientation. Alors, pourquoi ce sentiment est-il important? Ben, c'est parce que c'est un signal que notre cerveau nous envoie, en fait, il envoie à soi-même, pour signifier que quelque chose n'a pas bien marché lorsqu'on cherchait son chemin. Mm-hmm. Et ce signal permet de changer de pas, en fait. Donc jusque-là, on était dans la fluidité, mm-hmm. on était dans un parcours qui ne connaissait pas d'obstacles, et tout était prévisible, et on n'y pensait même pas, en fait. Le cerveau faisait le travail à votre place. C'est que le cerveau fait à l'aide de toute une machine compliqué de neurones des frontières, etc. Et tout d'un coup, bon, pour une raison quelconque, ça n'a plus marché, et il faut faire autre chose, il faut changer de pas, il faut, peut-être on n'arrive pas, c'est pas la guerre civile qui nous attend, mais il faut commencer à réfléchir à ce qu'on a fait jusqu'ici. Et donc il faut...
C'est ce qui nous arrive d'une certaine façon.
C'est ce qui nous arrive d'une certaine façon. Enfin, moi, évidemment, j'hésite à me prononcer de façon trop importante sur l'usage métaphorique de la désorientation. Enfin, je suis plutôt compétent sur la partie spatiale, mais il est clair que la métaphore ici est très parlante. Et d'ailleurs, si on prend la déclaration de Anthony Fauci, donc
le docteur Fauci, celui qui est le conseiller de Donald Trump,
la bête noire et les phares de la discussion aux États-Unis. Il commence son éditorial dans le New York Times, je crois, en disant qu'on est sur un territoire non cartographié avec la pandémie. Donc ces métaphores sont très importantes de toute façon, parce que les métaphores spatiales orientent notre pensée. Métaphores temporelles également, mais
bien sûr.
Spatiales, temporelles. Ah, on les montre aussi les travaux de François Hartog.
Ah, oui, justement, François Hartog, effectivement, ce que vous avez cartographié, vous, en tant qu'historien, c'est ce long rapport, justement, des humains depuis la Grèce antique jusqu'à maintenant, à ce temps, à cette crisis dont vous parliez tout à l'heure, à ce chronos, évidemment, que l'on imagine, mais aussi à ce kairos, qui est ce moment, effectivement, qu'il faut savoir saisir pour pouvoir justement être plein d'opportunités, comme on dit aujourd'hui dans les discussions chez les managers. Et là, effectivement, il nous arrive quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, qui bouche notre horizon temporel, qui le réouvre. Est-ce que, par exemple, la question du vaccin dont on parlait ici même hier, de la possibilité d'un vaccin, réouvre le temps alors qu'il nous était fermé depuis 7 ou 8 mois?
Oui, bien sûr. Bon, je crois que l'arrivée du Covid a introduit un temps nouveau qu'on ne connaît pas, qui est celui du virus. Bon. Et on s'est précipité dessus, à commencer par les médecins, pour essayer de l'appréhender, pour essayer d'y reconnaître un rythme, la saisonnalité, etc. Enfin bref, et pour porter un diagnostic. Enfin, c'est la médecine depuis Hippocrate fait ça. Bon. Donc essayer d'avoir une prise sur ce temps du virus inconnu et qui reste encore aujourd'hui inconnu. Bon. Dès lors qu'on entre dans ce temps, évidemment que la désorientation temporelle est là. Et elle a été accentuée ou renforcée, cette désorientation, par le confinement.
Vous parlez d'un temps inouï.
Oui, bien sûr, parce que on n'a jamais confiné les deux tiers de l'humanité, enfin plusieurs milliards de personnes en tout cas, en même temps, dans le monde. Bon, donc c'est un temps inouï, confinement, et un temps qui immédiatement induit de la désorientation. On a bien vu surgir aussitôt des conseillers qui disaient comment occuper ce temps, comment l'organiser, ne vous laissez pas aller, etc., etc. Bon, et avec une parole d'autorité, celle du président de la République, qui dit nous allons déconfiner le 11 mai. Bon. En un sens, il rouvre
le temps.
Il remet en marche le temps.
Puis ensuite, ça s'arrête à nouveau.
Voilà, bah oui, bon, malheureusement, ça s'arrête à nouveau. Et le vaccin, c'est une ouverture, une espèce de temps qui se remet en marche. On sort de ce temps stagnant, de ce présent stagnant, pour aller vers quelque chose qui pourrait justement permettre à nouveau des projets. Mais j'ai trouvé cette formule intéressante, puisque Macron s'est plusieurs fois vanté, ou on lui a prêté ses propos, de dire qu'il était le maître des horloges.
Absolument.
Bon, hein. Or, qu'a-t-il dit il y a une semaine ou 15 jours? Le maître du temps, c'est le Covid.
Oui.
Bon. Donc c'est une espèce d'abdication.
Oui.
Sachant que, justement, il n'avait pas l'autorité pour ouvrir le temps. Et le vaccin, puisque c'était une intervention directe sur le virus, enfin, par l'intermédiaire du vaccin, à ce moment-là, on a prise sur le temps du virus.
Bien sûr.
Voilà.
Et d'un seul coup, on se dit, en tant qu'humain, nous avons peut-être une possibilité de réouvrir ces temps, ce qui a été, et c'est ce que vous racontez très bien, une des ambitions de l'humanité, justement, que d'avoir un avenir qui était construit par les hommes à partir du passé souvent,
oui.
Retournant vers le passé en disant « nous allons construire l'avenir ». C'était les grandes religions en particulier du...
Le temps religieux.
Le temps religieux. Mais
justement, le temps religieux, les temps religieux sont des temps orientés.
Oui.
Bon, à la fois spatialement, puisque les églises sont orientées, les mosquées sont orientées, la prière est orientée. Donc il y a une orientation spatiale, et puis il y a une orientation temporelle. Et c'est le schéma des religions monothéistes.
Vous écoutez l'émission spéciale du vendredi du Temps du Débat, la conversation mondiale. Nous recevons François Hartog, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Chronos, l'Occident en prise avec le temps, chez Gallimard, et le philosophe de la perception, directeur de l'Institut Jean Nicot, Roberto Cassati, sur la question de la désorientation.
France Culture, una conversazione mondiale. Il tempo del dibattito.
Roberto Cassati, vous venez d'entendre François Hartog nous expliquer effectivement combien, à quel point la Covid nous a désorientés depuis le début de cette crise. Si on s'installe sur cette question mondiale, c'est aussi parce que il y a sûrement des perceptions différentes. Vous travaillez en tant que philosophe de la perception à partir de ce que l'on sait actuellement, par des études neurologiques en particulier, de cette perception spatio-temporelle. Mais j'imagine que ça n'est pas la même chose partout. Est-on désorienté de la même manière par ce Covid dans tous les espaces que nous connaissons, l'espace européen, je ne sais pas, l'espace asiatique, l'espace africain, ou est-ce que c'est très différent ?
Écoutez, là, je n'ai pas vraiment réponse parce que je n'ai pas de données qui montrent de différence. Il est clair que, par exemple, on est un peu désorienté dans la communauté scientifique. François Hartog vient de le dire, on ne connaît pas très bien les virus, sachant qu'on a publié presque 60 000 articles depuis le début de la crise, des revues scientifiques, 60 000. Hein,
ce qui n'arrive jamais pour aucun autre phénomène scientifique aussi rapidement.
Et donc, du coup, même si on a beaucoup de connaissances, trouver son chemin dans ces connaissances, pas facile. Et au moins, la communauté scientifique, enfin, on a 300 vaccins qui sont en cours en plusieurs différentes phases de tests, de mise en place. Donc, c'est clair qu'on a, beaucoup de connaissances qui s'est accumulées sur ces virus très importants aujourd'hui. Mais on est autant désorienté qu'on l'était peut-être au milieu de la crise. Ça va évidemment se résoudre à un moment donné. C'est clair que. Mais ça, c'est le point qui m'intéressait de souligner, suivant la conversation de tout à l'heure. Donc, on a parlé du 11 mai, on a parlé du vaccin. Ça va se résoudre à un moment donné. Quand on est désorienté, enfin, on sait comment marche la désorientation spatiale. Nous sommes désorientés dans des conditions très, très particulières parce que, disons, nous ne sommes pas des souris qui cherchent leur chemin dans des tunnels, donc garder un peu la trace quand ils tournent à gauche, à droite, etc. Nous ne sommes pas des pigeons qui font des envolées de milliers de kilomètres. Donc nous sommes et on n'a pas un sens de l'orientation très particulier. C'est juste qu'on a une capacité d'orchestrer ensemble plusieurs façons de s'orienter dans l'espace par rapport à des repères visuels lointains. Donc notre sens de l'orientation est un sens visuel, peut-être aussi acoustique, mais on connaît un peu moins ça, par rapport à des repères visuels lointains. Donc si on ne veut pas s'égarer, il faut avoir toujours en vue des choses, que sais-je, la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse, si vous êtes à Paris.
Vous savez que dans les conseils qui sont donnés aux télétravailleurs, un des conseils principaux, c'est de dire il faut que vous arrêtiez de temps en temps de regarder votre ordinateur, vous mettre à votre fenêtre et regarder pendant quelques minutes l'horizon.
Oui, c'est clair que ça va faire un reset de notre système visuel, pour des raisons aussi plutôt physiques, de fatigue oculaire. Mais donc c'est facile de faire des prédictions sur la base de cette théorie du fonctionnement du système d'orientation sur les situations dans lesquelles nous sommes désorientés. Ce sont des situations dans lesquelles on n'a pas accès à des repères visuels ou métaphoriquement parlant à des repères en général qui soient suffisamment éloignés de nous. Mmh. Et donc c'est dans les brouillards par exemple, dans la nuit parce que là il y a des conditions visuelles qui ne sont pas là, ou dans des endroits comme la haute mer. Moi, je fais pas mal de terrain en haute mer, donc il n'y a pas de repères visuels lointains. Vous attendez l'île pour pouvoir vous orienter. Ou dans les bois, où il y a trop de choses qui sont trop près de vous, et donc on n'arrive pas à voir loin. Et c'est ça le point qui me semble très important pour la métaphore aussi de la désorientation. C'est que nous avons perdu, dans une situation comme celle du confinement, les repères éloignés. Mm-hmm. Et donc, c'est une partie du travail des pouvoirs publics est aussi celui de montrer que les pouvoirs publics sont en charge, en fait, de donner le chemin. Donc, la date performative du 11 mai, c'était parfaitement arbitraire, c'était un performatif, mais donc ça a servi pour réorienter l'activité de toute la communauté.
On attend maintenant la date performative pour le mois de décembre ou pour le mois de janvier, mais ça, on ne l'a pas encore pour l'instant.
On ne l'a pas encore, mais les vaccins, par exemple, c'est une date incertaine. Mais maintenant qu'on sait que les virus est relativement attaquable et que les vaccins commencent à donner des résultats et qu'il y aura, la mise en place ça va être compliquée, etc. Mais ça nous sort
de cette
sentiment de désorientation. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que le sentiment de désorientation, enfin, déplaisant qu'il soit, il est très important. Il est très important parce que c'est un signal, c'est un voyant qui s'allume et qui dit, écoute, tu n'es pas en train de faire les choses qu'il faut faire normalement. Donc qui est tout fait le moment, il faut trouver d'autres moyens pour sortir de... donc il y a un élément un peu de kairos, évidemment, ça, dans tout cela.
Est-ce que François Hartog, on pourrait dire, comme l'a écrit un peu plus tard, après les événements, Chateaubriand, les événements couraient plus vite que ma plume?
Oui, c'est ce que j'ai évoqué, cette belle formule de Chateaubriand à propos de la Révolution, quand il écrivait son
journal,
son livre sur les révolutions.
L'essai sur les révolutions.
Son essai historique sur les révolutions. Oui, mais il faut dire que Chateaubriand, qui est quand même un grand, l'a écrit ça 25 ans après. Bon, mais non, justement, il m'a semblé, évidemment, je ne me compare pas à Chateaubriand, il m'a semblé que précisément, la réflexion que j'avais menée n'avait pas à être effacée parce que l'arrivée du Covid foutait, encore une fois, mettait tout par terre. Mais je voudrais peut-être faire...
Allez-y.
Peut-être poser une question aussi à Roberto Cassati à propos de la désorientation. Parce qu'il me semble que nous avons, avec... Vous parliez de montre. Non, nous n'avons plus de montre. Les gens n'ont plus de montre, ils ont un téléphone. Un téléphone qui leur donne l'heure instantanée.
Et qui leur donne aussi les plans pour pouvoir s'orienter dans une
ville. Puis nous avons les téléphones qui nous disent comment aller d'un point à un autre. Mais justement, en un sens, ces instruments d'une extrême précision nous font perdre le sens de l'orientation. On voit peut-être dans la rue, vous voyez tous ces gens avec leur téléphone qui ne savent pas s'il faut le mettre à gauche comme ça, dans quel sens pour essayer.
Donc, où est la boussole?
Oui. Donc, ils sont en fait complètement désorientés. Et avec votre téléphone, vous savez qu'il est 17h34, mais la perspective, c'est-à-dire la durée, le mouvement, la possibilité d'anticiper disparaît. Et on voit bien, quand les téléphones sont apparus, surtout chez les jeunes gens, qui ne pouvaient pas se donner un rendez-vous à une heure quelque part, il fallait qu'ils se téléphonent jusqu'au moment en disant « Ah, je te vois
oui. ».
Voilà. Et donc, il y a quelque chose là qui m'interroge.
Oui, comme le dit aussi François Hartog, Roberto Cassati, nous pouvons, avec le virtuel, être présents à tout et tout faire, ou presque. Seulement manque la présence réelle, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas avec nous, pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde dans ce studio, donc vous êtes à distance, mais on dialogue tout de même, vous dialoguez avec François Hartog, Roberto Cassati.
Oui, donc pour répondre à la question, oui, la littérature le montre maintenant très bien, en fait il y a... l'orientation n'étant pas un sens comme la boucle, c'est vraiment un ensemble de capacités qui sont orchestrées par une pratique. Ben, si vous ne pratiquez pas l'orientation, vous la perdez, tout simplement. Donc, si vous êtes un mode de délégation complète, avec les GPS aujourd'hui, ben, là, c'est le GPS qui fait le calcul, pour retrouver un chemin à votre place, et vous ne le faites pas. Et non seulement ça, enfin, même si vous utilisez une carte, qui est aussi une façon d'alléger votre charge cognitive lorsque vous cherchez votre chemin, les cartes, on les utilise pour trouver des raccourcis ou des détours, typiquement. Ben, là, vous êtes obligé de regarder les territoires autour de vous. Donc, il y a non seulement une perte de la capacité de s'orienter, mais il y a aussi une perte de l'intérêt pour l'environnement qui vous entoure. Donc, c'est relativement bien documenté, je pense, maintenant. Sachant que moi je suis un inconditionnel du GPS,
on est pétri de contradictions, c'est bien.
Non, c'est pas, je crois que c'est essentiel, ça a réglé beaucoup de questions, notamment les premiers GPS, vous savez, ils ont réglé des questions de conflictualité conjugale lorsqu'on cherchait les chemins en voiture et qu'il y avait l'un des deux partenaires qui naviguait l'autre pour l'autre, et ça a vraiment réglé la question pour toujours. Non, le GPS est un instrument extraordinaire qui a réglé, en un sens, la question de trouver sa place et trouver son chemin à notre place. Mais il est vrai qu'il y a une perte de cette capacité. On le voit aussi, par exemple, là, il y a des différences individuelles sur la capacité de s'orienter. Typiquement, l'anecdote nous dit que les hommes s'orientent mieux que les femmes. Tout en sachant qu'il y a des femmes qui gagnent des courses d'orientation. Enfin, donc, il y a des éléments ici, je crois, qui montrent que l'orientation n'est pas simplement un sens, comme un sixième sens, à des éléments d'histoire personnelle. C'est que les garçons, typiquement, quand ils sont jeunes, ont plus de liberté pour explorer l'environnement qui est autour d'eux que les filles. Et cela fait en sorte qu'ils arrivent à mieux orchestrer toutes les capacités visuelles, motrices et de représentation spatiale. Ouais,
s'entraîner pour mieux s'orienter, effectivement, ça n'est pas tout à fait l'image que l'on s'en fait. Est-ce que c'est la même chose pour la question de la désorientation temporelle, François Hartog ? Est-ce que les sociétés ont un temps social qui n'est pas le même que le temps, par exemple, tel qu'il est imaginé par les intellectuels, par les penseurs du temps, qui n'est pas toujours le même non plus que le temps médical. Là, on le voit très bien dans la crise que nous connaissons. Comment cela se passe-t-il, justement ? Est-ce qu'il y a un entraînement à la connaissance du temps, à l'apprentissage du temps, à l'idée même, d'ailleurs ? Je pense que les moines au Moyen-Âge faisaient partie de cela, c'est-à-dire à l'idée même de savoir comment calculer les temps qui nous séparaient du jugement dernier, par exemple. Ça faisait partie de ces questions-là.
Oui, enfin, il ne fallait pas le calculer, justement.
Ou comment ne pas calculer.
Et c'était très important. Il fallait y penser toujours et ne le calculer jamais.
Jamais, voilà.
Bon, mais en fait, nous sommes toujours aux prises avec une quantité de temps différent.
Un feuilletage de temps.
Oui.
Qui se superpose et qui s'interpénètre.
Qui se superpose, qui s'interpénètre et qui peuvent être aussi en conflit.
Oui.
Bon. Et les moments de crise, justement, sont des moments de conflit, sont aussi, c'est pas seulement ça, bien sûr, mais sont aussi des conflits de temporalité. Quand, prenons les gilets jaunes, par exemple. Hein. C'est beaucoup de choses, mais c'est aussi un conflit de temporalité, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans, ne vivent pas au même rythme que les gens de l'élite, enfin, etc., etc. Bon, et on a beau utiliser les mêmes téléphones portables. On n'est pas forcément dans le même temps, au moment où on utilise, où on se parle avec le même téléphone portable. Mm-hmm. C'est ça qui et donc on peut très bien. C'est une source de malentendu profond tout ça. Et les temporalités, il faut toujours les imaginer comme des de feuilletage, oui bien sûr, mais dynamique. Mm-hmm. Et certaines de ces temporalités vont plus vite que d'autres, d'autres sont beaucoup plus lentes, d'autres semblent ne pas bouger.
Mais le confinement nous a mis dans une même temporalité, le premier confinement.
Confinement nous a mis dans une même temporalité, qui est qui, à mon avis, était un présent stagnant.
Permanent.
Et qui était encore renforcé par le fait que nous étions, enfin ceux qui étaient connectés en tout cas, vivaient dans ce présent de l'instantanéité sans présence réelle, bien sûr, mais de l'internet. Donc tout ce que nous vivons avec le Covid est une accélération de notre mutation vers une condition numérique, si je dis les choses de manière un peu
et cette vie numérique, elle donnera quoi, justement, au regard de votre propre travail sur le long temps, justement, le chronos, tel que vous l'avez décrit dans votre livre, François Hartog?
Là, il me semble que, nous sommes avec si on admet que les 50 dernières années dans les sociétés occidentales ont été surtout marquées par cette prépondérance du présent, nous étions très mal préparés à la survenue d'un épisode comme le Covid, d'autant plus que ce présentisme fait que nous sommes plus incapables qu'avant de toute anticipation. Mm-hmm. Bon. Le truc typique, ce sont les masques. Mm. Bon, on a traité alors je vais pas reprendre cette vieille ancienne, mais on a traité les masques comme si c'était un produit qu'on importait en effet de Chine et qui devait obéir au mot d'ordre just in time. Mm-hmm. On ne fait pas de stock. Bon, donc c'est bien l'idée où livre le fait qu'on n'ait pas pu voir 8 jours avant que l'Italie, ce qui se passait en Italie, nous arriverait. C'est la même chose. Donc il y a une espèce de blocage
temporel sur un présent permanent.
Oui, une espèce de blocage mental. Ouais. Bon, donc il rend très difficile à nos sociétés de s'orienter justement dans ce qui s'advient. Et avec cet élément supplémentaire qui nous tombe dessus, qui nous est tombé dessus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le temps de l'Anthropocène. Ouais. C'est-à-dire le fait que ce sont là des temporalités d'une extrêmement qui se comptent en millions d'années, ouais. sinon en milliards d'années, qui renvoient au temps de la Terre et au système de la Terre, auxquels nous nous trouvons confrontés et face auxquels nous ne savons pas comment réagir et comment agir.
Et pour mieux réagir, il faudrait peut-être lire saint Augustin, dites-vous, parce que il est celui qui a pensé d'un côté la cité de Dieu oui. et la cité oui. des hommes, et que et il y avait ce temps long de Dieu d'un côté, ça n'est plus Dieu, mais c'est oui. la nature ou c'est l'Anthropocène, voilà. et notre et temps des hommes qui ne coïncide pas forcément, mais on peut les tenter.
Vous avez pensé le simultané du non-simultané.
Le simultané du non-simultané.
C'est un concept un peu... ésotérique, mais...
mais tout à fait efficace quand on vous lit, en l'occurrence.
Très opératoire, à mon avis.
Le simultané du non simultané. Roberto Cassati, là, on a parlé de ce qu'on pourrait réparer dans notre temps, ou ce que la crise pourrait, d'une certaine façon, faire rendre le temps, comment la crise pourrait rendre le temps différent, tel qu'on nous le percevions avant et nous le percevrons après, pour l'orientation spatiale, dont vous êtes plutôt spécialiste.
Oui, en fait, là, sous la question de, je crois, les philosophes, en fait, ont le droit, peut-être le devoir d'essayer de travailler les concepts, d'inventer des nouveaux concepts qui nous permettent de surmonter des crises, éventuellement, des changements. Et, j'ai presque envie de poser une question à François Hartog.
Allez-y.
Sur l'Anthropocène, qui est le dernier chapitre de son livre, et la relation avec, enfin, les enseignements qu'on peut tirer de la crise de la Covid. Il y a dans la crise de la Covid un élément qui est souvent mis en avant par les militants écologistes, qui est celui de la reconstitution de l'environnement, parce qu'on prend plus l'avion, on navigue beaucoup moins, donc il y a moins de pollution sonore il y a moins de production en général, donc il y a moins de déterminants du dérèglement climatique sont en place, et donc on donne un peu de répit à l'environnement. Et on sait très bien que ça s'est passé dans d'autres situations de crise récentes. Par exemple, on a mesuré pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une reconstitution des stocks de poissons. Très importante, en fait.
Il nous reste une minute et demie, allez-y vite, oui. si vous voulez bien.
Voilà, c'était juste pour savoir si on peut se mettre dans une logique de temps saccadé, pour ainsi dire, dans laquelle on a des crises qui permettent à l'environnement de se reconstituer. Donc c'est peut-être ça notre dialectique avec l'Anthropocène.
Oui. François Hartog.
Alors, bon, en une minute.
une minute et demie, allez.
Je ne suis évidemment pas un scientifique, un spécialiste de l'Anthropocène, mais il me semble que ce qu'évoque là Roberto Cassati valait justement... encore par au moment des guerres mondiales, on peut reconstituer le stock de plein de poissons. Bon, mais là, on est dans une situation où quoi que nous fassions, les gens qui étudient le climat nous disent qu'on a modifié le climat pour les 100 000 années qui viennent. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il faut dire dans ces conditions très bien, continuons et rien ne bouge. Mais ça veut dire que le problème se pose en des termes, là encore, auxquels l'humanité, je crois, jusqu'alors n'a pas été confrontée. Et on est là aussi dans de l'inédit.
Merci à vous deux, merci à vous François Hartog. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, que votre dernier livre, qui est tout à fait passionnant parce qu'il poursuit une entreprise que vous avez entamée il y a déjà plus de 20 ans sur le temps, s'intitule « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps » chez Gallimard dans la Bibliothèque des Histoires. Et un grand merci à vous Roberto Cassati d'avoir accepté en tant que philosophe de la perception et directeur de l'Institut Jean Nicot de nous confier un texte qu'on retrouve à la page de la Conversation mondiale sur le site de France Culture, qui s'intitule « Ce que nous traversons » se traduit en un sentiment, la désorientation, qui était au cœur de notre conversation entre vous et François Hartog. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Imane Gilles. Jean-Guy Lamège nous a accompagnés à la technique et à Sierra Lid à la réalisation. Demain à 18h10, vous le savez, il y a un temps du débat du samedi. C'est Raphaël Bourrois qui s'en occupe. C'est un temps du débat du samedi consacré aux fake news.